Radio, glace. À La Grave, une station pas comme les autres, on pratique le ski hors-piste et l'alpinisme. La fonte du glacier impose à la station de s'adapter et de changer d'approche. Avec la voix de David Le Guen.
David Le Guen, je suis responsable commercial et communication au téléphérique des Glaciers de la Meije. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'y travaille et donc c'est un boulot 4 saisons qui est prenant et qui est en lien direct avec la haute montagne ici sur la Grave. On a un outil de travail qui est le téléphérique qui permet de monter en haute altitude et qui permet de découvrir réellement tous les étages alpins, donc des habitations, l'étage alpin à 1400 mètres jusqu'à la prairie subalpine à la gare intermédiaire de 2004. Et à partir de là, on rentre dans le domaine de la haute montagne jusqu'au glacier à 3002 et l'hiver jusqu'à 3006 avec le téléski qui est installé sur le glacier de la Girose. Donc l'environnement glaciaire fait partie intégrante de notre environnement et du mix de ce que les personnes viennent chercher à la Grave. Le projet a été porté par les élus de l'époque dans les années 60, a été âprement défendu dans les années 70 au moment de la création du parc national des Écrins, parce que c'est dans ces années-là où a été actée la construction du téléphérique qui a été construit pour le premier tronçon en 1976 et construit pour le second tronçon en 1977. En 1987, il y a eu une nouvelle délégation de services publics et conformément au cahier des charges, à l'époque c'était une demande de la collectivité de créer le téléski sur le glacier de la Girose pour justement rejoindre le domaine des Deux Alpes. Et puis il avait été conçu pour éventuellement faire du ski d'été, ça a été exploité sur les étés 93 et 94, il me semble. Et puis le glacier de la Girose, c'est pas un glacier qui se prête au ski d'été, il est trop crevassé. Le glacier n'a pas arrêté de perdre en épaisseur, comme partout ailleurs. On a à peu près une trentaine de mètres en épaisseur depuis la construction du téléski. Et en 2008, on a eu un effondrement conséquent de la pointe Trifide sur laquelle était ancrée une partie du téléski. Probablement dû au phénomène notamment de décompression glaciaire où le glacier se retirant, la base des rochers n'est plus tenue. Donc on exploite plus qu'une seule partie maintenant de ce téléski, du milieu du glacier jusqu'au sommet du Dôme de la Lose. Les travaux d'exploitation du téléski sont à la limite des raisonnables en termes d'empreinte écologique, parce que le glacier s'étant creusé, donc on est obligé de faire des travaux de bulage avec les dameuses, qui consistent à créer une digue, à remonter le niveau du glacier, entre 8 et 10 mètres, suivant les saisons, sur la partie terminal du téléski et ça c'est des heures de machine, de poussage de neige et ça devient climatiquement déraisonnable de continuer à brûler du gasoil pour maintenir le téléski, donc la suite qu'on imagine c'est de le remplacer par un téléporté justement, un téléphérique à va-et-vient et qui permettrait de survoler le glacier et de ne plus avoir aucun point de contact avec le glacier et on s'affranchirait de tous ces travaux vraiment conséquent de travail de piste de montée. Le règlement préfectoral d'exploitation déposé lors de la construction du téléski en 86 dit que le téléski est autorisé sous réserve de boucher les crevasses à la technique dite de l'explosif. Donc faut se replacer dans les contextes, hein. En 1986, la cause environnementale, elle est plutôt soft, on va dire. Et donc voilà, pour effondrer les crevasses sur elles-mêmes, pour les boucher, au début, ça se faisait à l'explosif. Moi, je suis arrivé au moment où le switch s'est fait, depuis les années 2000. On bouche les crevasses, effectivement, à la pelle mécanique. Alors, c'est choquant, dit comme ça. Ouais, il y a une pelle mécanique qui se balade sur le glacier, qui bouche les crevasses, qui fonde les lèvres. Après, on n'a pas de vaporisation dans l'atmosphère, parce que la neige et la glace des lèvres, elles restent sur le glacier. Sur la grave, l'un ne va aujourd'hui pas sans l'autre. On a besoin de l'économie pour pouvoir préserver aussi notre environnement. Et du coup, ça se fait naturellement, on bosse naturellement avec le bureau des guides parce qu'on est une porte d'accès à la haute montagne. On facilite une certaine partie de leur travail et de l'apprentissage. Et on bosse très bien avec le parc national des Écrins. Ils viennent se former en nivologie ici parce que ça facilite justement les accès, la rapidité. Et on fonctionne tous à la croisée des chemins et il y a des vraies valeurs sur lesquelles on se retrouve. Les glaciers sont nos richesses, même si demain on arrive à rester sous le 1,5 degré, et pour ça il va falloir qu'on s'y mette tous, ça n'empêche pas que dans 30 ans, les glaciers ils auront perdu 60 à 70% de leur surface en Europe. Ce sont nos châteaux d'eau, c'est nos régulateurs d'eau, et à la limite on pourrait dire qu'à la grave, on ne sera pas les plus embêtés puisqu'on est plus proche de la source. Par contre, tout ce qu'il y a en dessous de nous va connaître aussi des vrais problèmes d'eau. Donc, plus on en prend soin de nos glaciers, moins on va faire de la pelle mécanique dessus, moins on va faire du gasoil dessus, plus on va les survoler. C'est une certitude que ça, c'est des valeurs sur lesquelles on arrive à se retrouver. Après, il y a un courant de pensée qui dit qu'on devrait carrément tout enlever du glacier. Je l'entends, et c'est là où je reviens à la notion d'économie. Le village, aujourd'hui, vit aussi par son téléphérique, et s'il n'y a plus le téléphérique, la vie du village en sera grandement transformée. Est-ce que tout le monde est prêt à cette transformation? Peut-être qu'une des solutions justement pour prendre le plus soin des glaciers, c'est toujours d'essayer de trouver des solutions qui sont intermédiaires. Aujourd'hui, c'est compliqué d'y voir clair de manière très sereine, parce que je pense que personne n'a la vérité là-dessus. Il y a des endroits où des systèmes marchent, d'autres où ça marche pas du tout. On avait fait des essais ici, des essais de bâche, ça n'avait pas été concluant. Depuis 2 ans qu'on fait une petite boucle sécurisée sur le glacier pour que les piétons marchent, sur du plat, je parle bien sur du plat, le damage, ça marche. Parce que effectivement, dès qu'on repasse un coup de fraise et qu'on remet au blanc, tout de suite ça marche. Voilà. De là à se dire qu'on va aller damer l'intégralité des glaciers pour les préserver, 27 litres à l'heure pour une dameuse en moyenne, la notion d'équilibre sur les glaciers, ouais, je veux pas être pessimiste, peut-être qu'on trouvera d'autres solutions d'ici là, mais sur l'échelle générale des glaciers, on va tous souffrir, je pense. J'étais être gardien dans plus de 10 saisons dans le Mercantour, au refuge des merveilles, refuge de Vanasque. Et du coup, j'ai été habitué au paysage sec de glaciers, parce que là-bas, il n'y en a pas. Et en arrivant à la grave, les glaciers sont toujours omniprésents. La limite remonte, les paysages se transforment et ils laissent apparaître maintenant les roches moutonnées que moi, j'ai eu l'habitude de voir justement dans des paysages où il n'y avait plus de glaciers. Et le paysage se transforme. Il n'en est pas moins joli parce qu'il n'y a plus les glaciers, il en est juste différent. C'est la montagne en perpétuelle évolution, alors c'est sûr que ça peut même être flippant parce qu'on va vers l'inconnu. Mais le paysage, moi je m'estime pas gardien d'une carte postale pour mes enfants, quoi. Parce que déjà c'est une mission impossible. Et puis les paysages sont façonnés par l'histoire des hommes qui vivent autour. On vit devant les mêmes montagnes, on n'a pas les mêmes usages, et pourtant on arrive à s'émerveiller des mêmes choses.
Radio Glace, une série de créations sonores glaciaires de Pali Meursault et Thomas Tilly, dans le cadre de Paysages, Paysages.